Radio Kati, l'antenne. Co-fondatrice et présidente honoraire de l'Association des femmes d'origine africaine à Foa, basée en Suisse, aujourd'hui retraitée, Kinja Mulegwa est aujourd'hui l'invitée de Grand Témoin. Immaculée Kinja Mulegwa, soyez la bienvenue.
Oh, merci.
Comment allez-vous?
Je me porte bien.
Vous avez vécu en Suisse pendant près de 40 ans et vous avez beaucoup œuvré dans les associations féminines et des droits de l'homme. Vous le savez aussi, 10 décembre 1948, 10 décembre 2008, le monde a commémoré le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous ferons également le point des droits de l'homme en RDC avec vous. En 1951, vous naissez à Bukavu, au sud Kivu, dans une famille de 10 enfants, dont vous êtes l'aîné de 5 filles et deuxième. Votre famille, c'est aussi toute une histoire, hein, Kinja Mulegwa. Pouvez-vous nous la conter brièvement?
Oh là là, comment je vais commencer? Bon, je sais qu'on s'est toujours grandi. Mon père avait fait le petit séminaire. Il avait trouvé du travail. Donc, il travaillait à Bukavu. Il y a eu un sida qui a créé qu'il devait quitter Bukavu pour aller habiter à Bujumbura. Et mon père travaillait à la presse de la Rigérie à Bujumbura.
Et l'incident, il faut le dire, votre père n'était pas tout à fait d'accord avec un colon blanc.
Bon, oui, il y avait un blanc qui a harcelé beaucoup mon père, hein, parce que son épouse avait une sorte de
penchant pour,
de
penchant
pour mon père, et puis le type n'a pas aimé, et puis c'était vraiment l'harcèlement comme tel. Puis après, les prêtres ont préféré donc déplacer mon père pour Burundi à l'époque.
En 1960, votre famille décide de retourner au Congo, qui venait d'acquérir son indépendance. Mais pourquoi vous n'avez pas pu bénéficier des conditions requises pour une scolarité normale?
Bon, là, en retournant d'abord, il y avait déjà ces troubles des guerres, de l'indépendance. Et mon père devait toujours chercher donc un travail. On s'est trouvé dehors, là où on était, on venait d'arriver. On est rentré donc en 62. Donc 70, 63, 64, c'est le scrap, 64, 65, 66, 67, non, 64, c'est la rébellion, 67, c'est scrap. Et voilà, les hauts, les bas, et jusqu'à ce que j'ai quitté donc le Congo.
Donc vous n'avez pas pu avoir une scolarité normale à cause des guerres?
Bon, il y avait, tantôt on allait à l'école, tantôt on ne pouvait pas y aller, il y avait des grèves, et à l'époque aussi, la situation donc des fonctionnaires, c'était des hauts, des bas.
Kinja Mulegwa, que signifie votre nom?
Bon, Mulegwa, ça j'ai omis de demander à mon père. Et ça, je le regrette beaucoup aujourd'hui décédé. Kinja, je sais que normalement c'est Nakinja. Nakinja, ça veut dire Marie Immaculée. Nakinja, c'est la langue chi, je suis mouchi.
Donc, à votre baptême, on vous a donné ce nom-là?
Et on m'a donné donc le nom Nakinja. Et les prêtres ont voulu les noms européanisés qu'on a traduits à Immaculée.
Et du recours à l'authenticité
Directement, je n'ai même pas attendu le recours à l'authenticité. Au moment où je suis venu chercher les visas pour partir, c'était directement qui a mon passeport.
Jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour. Je ne voulais pas du tout le nom d'Immaculée.
Vraiment. En 1969, vous avez 18 ans, vous rencontrez M. Migabo, un Congolais vivant en Suisse et qui deviendra votre mari. Mm-hmm. Malheureusement, il va décéder 4 ans après, en 1973. Mm-hmm. Mais comment avez-vous vécu les moments qui ont suivi sa disparition? Vous n'aviez ni parents, ni amis avec des connaissances approximatives de la langue de votre ville d'adoption. Comment vous vous en êtes sorti?
Ah là, c'était terrible. Ça, c'est les moments les plus terribles de ma vie. Et la jeunesse, tout d'un coup, c'est ça, complètement vie, parce qu'on se trouve devant des responsabilités. On s'est tous complètement perdus. On est toutes seules. Quand on dit qu'il y a, bon, par exemple, on dit le matin, on fait le matin quand on a tout le monde autour de vous. Mais si vous êtes toutes seules, il faut regarder où vous vous laissez aller, où vous vous en sortez. Et je me suis dit, je dois m'en sortir. Et pour moi, c'était radical. J'ai dit, je dois m'en sortir. J'ai tout fait moi-même. Et j'ai fait tout pour venir enterrer mon mari, c'est une personne.
Et en même temps, vous avez fait des petits boulots par-ci, par-là, études.
C'est compliqué de parler de soi-même. C'est vraiment une nouvelle ville qui est très dure. Bon, tout de suite, je me suis dit non, stop, il faut à tout prix que je m'en sorte. Puis j'avais à l'époque l'image d'une de maîtresses de l'école, à l'école primaire à Bujumbura, qui était aussi rentrée au Congo. Son mari était décédé à 64. Et cette femme a beaucoup souffert. C'était trop. Et j'étais trop jeune, ça m'avait beaucoup marqué. Chaque fois qu'il y avait une femme qui perdait son mari, on se ruait sur cette femme. Et ça, je n'ai jamais apprécié ça. Cette image m'est revenue à moi. Je me dis, voilà, c'est mon tour maintenant. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout attendu. Et voilà, que faire? Je dis non, je dois m'en sortir. Et tout de suite au retour, je suis allée donc m'inscrire dans une école, 2 ans. Tout de suite, j'ai trouvé du travail. D'abord, pour moi, je me disais, il faut que je travaille.
Et c'était quel travail,
je Et là, je suis trouvée le travail à l'Université de Genève. J'ai fait à peu près, plus de 4 ans à l'Université de Genève au service de publication. Le service de publication, je suis allée à l'école de médecine dentaire. De médecine dentaire, je demandais une invitation à la prévoyance sociale et je suis restée en prévoyance sociale jusqu'à ma retraite anticipée. En fait, je suis retraitée, c'est une retraite que j'ai demandée moi-même. Je me suis fixée à 10 ans, à 55 ans, je dois m'arrêter et faire autre chose. C'est ce que j'ai fait. Voilà.
En 1982, vous offrez vos services au Bureau national cantonal de la prévoyance sociale à Genève en Suisse, vous en parliez. Que faisiez-vous concrètement?
Mais là, c'était un travail très très intéressant. Je me suis tout d'un coup, qu'on le veuille ou non, trouvé la DEDA, s'occuper du social. Ça veut dire comme quoi que s'occuper des personnes à la retraite, calculer la retraite des gens qui venaient de prendre la retraite, l'assurance donc invalidité. L'assurance perte des gains, c'était vraiment calculer les rentes pour les gens qui viennent déterminer le travail.
En 1987, vous adoptez la nationalité suisse. À votre avis, en quoi la double nationalité peut-elle constituer un avantage pour le pays d'origine?
Bon, tout dépend. C'est vraiment une question que moi, personnellement, pour le moment, j'ai dit pour le moment, parce que la loi n'est pas statique. Pour le moment, pour moi, la double nationalité ne m'arrange pas. Je suis contre la double nationalité. Malgré que je me trouve au Congo, j'étais étrangère là où j'étais, je me trouve au Congo parce que étrangère.
Voilà, monsieur. Pour les bambous, ça, on a pas bien la bantoyette, on a pas bien la bantoyette, on a pas bien la bantoyette, on a pas bien la
bantoyette.
Oh, bon, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de
temps,
il y a un peu de
Dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Kinja Mulegwa, vous êtes cofondatrice et présidente honoraire de l'Association des femmes d'origine africaine, AFOA, basée en Suisse. Aujourd'hui, vous êtes retraitée. Qu'est-ce qui vous pousse à militer dans les rangs des féministes pendant que certaines femmes pensent que c'est un combat perdu à l'avance?
Oh non, non, c'est une erreur. Parce que là, quand je suis arrivée donc en Suisse, et la première chose que j'ai vu, que c'était donc avec les voix de mai 68, c'était la révolution totale. J'allais dans les réunions, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces femmes tentent de se révolter? Quand j'ai dû comprendre, et là, j'ai découvert comme quoi que j'ai pensé qu'avec la colonisation, les femmes européennes, elles avaient tout. Qu'est-ce que je découvre? La grande surprise, c'est comme quoi il fallait à tout prix qu'elles changent aussi la situation.
Il y avait beaucoup de problèmes.
Il y avait beaucoup de problèmes aussi, encore plus que nous-mêmes, à mon avis. Hein? Par exemple, les femmes suisses ont eu droit de vote en 1971. Et ça, c'était un combat que les femmes ont mené. Et là, je pense que les femmes qui pensent qu'on croit que c'est un combat perdu, ça, c'est une faute d'erreur.
Vous avez passé près de 40 ans en Suisse. Quels sont les véritables problèmes des femmes immigrées?
Aïe, la femme immigrée a beaucoup de problèmes parce qu'il y a les problèmes donc de papier, il y a les problèmes de travail. Pour avoir donc le papier pour travailler, il y a plus de sortes de permis. Il y a les permis B, il y a les permis C. Les permis C, c'est ça qui peut permettre de trouver un emploi. Et les C, pour les avoir, il faut faire 10 ans. Alors, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Pour ça, oublier les problèmes aussi au niveau des enfants, les scolarités des enfants, les suivis d'école c'est trop.
Les femmes immigrées sont-elles facilement intégrées en Europe?
Bon, l'intégration, on essaie de faire l'intégration. On essaie, c'est pour cette raison qu'on a même constitué ces bureaux d'intégration pour les immigrés. Mais la femme elle-même, à ce qui concerne les Africains, on reste toujours dans les ghettos, entre nous. C'est très difficile de faire ces pas.
De s'ouvrir aux autres.
Il y a très peu de femmes qui s'ouvrent aux autres. Parce qu'il faut vraiment d'abord avoir beaucoup plus d'assurance et juste de compatibilité, comme moi j'ai fait. C'est moi qui s'est imposé. Ils ne sont pas venus me chercher là où j'étais. C'est moi qui ai parti vers eux.
On le disait en début d'émission, 10 décembre 2008, le monde commémore aujourd'hui le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème choisi cette année, c'est « Dignité et justice pour tous ». Pour ce qui est de la RDC, la situation des droits de l'homme en RDC est grave. Déclaration à Radio Okapi du représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et directeur de la Direction des droits de l'homme de la MONUC, Todd Holland. Toutefois, a-t-il souligné, seul l'engagement des Congolais peut apporter le changement. Todd Holland est au micro de René Capitapelezo.
Je peux dire que la situation est grave, la situation est très grave. Il y a une violation systématique des droits de l'homme. C'est pour être le droit économique, le droit d'intégrité physique. Mais chaque province ici a une autre réalité. Une province, par exemple, à Nord Kivu, il y a beaucoup d'acteurs qui ont violé les droits de l'homme. Il y a le CNDP, le Maïmaï, le FDLA, le FLDC, le PNC qui violent les droits de l'homme. Ici, la situation est complexe. C'est vous-même, le Congolais, qui va changer votre situation. Nous, la communauté internationale, nous sommes ici pour faciliter, pour aider, pour appuyer le changement. Mais c'est vous-même, mais si on ne fait pas, rien ne change.
Réaction à Kinja Mulegwa, la situation des droits de l'homme est grave en RDC.
À mon avis, la situation des droits de l'homme en RDC était toujours grave, depuis autant de Mobutu que maintenant. Il y a un tout petit peu de changement, mais ça a toujours été grave. Parce qu'à l'époque aussi, on tuait les gens, on allait aussi les gens, on n'en parlait pas. C'est ça la différence, on n'en parlait pas. Actuellement, on en parle. Et je pense que, comme il vient de dire, c'est nous-mêmes les Congolais qui peuvent changer les choses. On ne peut pas attendre que les autres s'agiront de la situation au Congo. C'est les Congolais même qui vont les faire changer.
En 1981, vous êtes cofondatrice de l'Association des femmes d'origine africaine, AFOA, dont vous avez assumé la présidence en 1988. Quels étaient vos objectifs?
À l'époque, nous tous, on voyait chaque fois qu'on passait l'image à la télévision, l'image de l'Afrique, c'était l'image négative. On ne pouvait jamais montrer comme quoi que les Africains vivent aussi mieux. C'était tout le temps ou bien les bidonvilles, ou bien donc la pauvreté, ou bien vraiment c'était tout
la malnutrition.
La malnutrition, ça commençait à nous déranger. On s'est dit non, ce n'est pas possible. Il faut à tout prix qu'on se raconte pour les fils qui essayaient de créer une association ensemble, où on va commencer à contredire déjà des images. On était à peu près une quarantaine de femmes. On a décidé de constituer cette association, Association des femmes d'origine africaine, AFOA, qui nous a permis maintenant de contredire, d'aller parler en disant non, l'Afrique n'est pas toujours aussi négative que vous le pensez et que les Africains ne continuent toujours pas à vivre dans les arbres. Si on monte la maison, c'est toujours tout les maisons, donc les bidonvilles. Et même au travail, les autres qui nous commençaient à nous demander est-ce que vous avez des routes là-bas chez vous. Je dis non, je suis venue ici chez vous comme Tarva avec Céliane, yao yao. Et ça, vraiment, c'était surtout pour faire monter l'image positive de l'Afrique, malgré nos problèmes quand même.
L'AFOA a élargi ses activités à d'autres domaines. En 1994, par exemple, l'association a envoyé, avec la collaboration de la Direction du Développement et de la Coopération des DC, un conteneur d'habits et de vivres aux populations nécessiteuses du Kivu. Vous avez aussi secouru les populations en détresse en Éthiopie, au Burkina Faso, au Tchad et en Jamaïque. Actuellement, avec les exactions dont les femmes sont victimes à l'est de la RDC à cause de toutes les guerres que l'on connaît dans cette partie de la République, vous avez plusieurs fois dénoncé l'inaction de la communauté internationale. Pourquoi ?
Oui, parce qu'on se pose la question, pourquoi cette guerre ? Et pourquoi ce silence ? C'est maintenant qu'on commence à en parler un peu. À l'époque, on n'en parlait même pas. Même les campagnes contre la violence, ça a commencé depuis longtemps. Moi, je me souviens, j'étais au Brésil, on a dénoncé cette violence à partir du Brésil, à partir de São Paulo. C'était en 1997. En 2002, on a soutenu les campagnes contre la violence faite aux femmes congolaises, qui a été initiée par les femmes des ONG du Kivu. Maintenant, on en parle, tant mieux. Mais on s'est posé la question pourquoi. Personnellement, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas toujours compter sur les autres. C'est nous-mêmes qui devons faire quelque chose. C'est nous-mêmes qui devons crier. C'est nous-mêmes qui devons dire non, stop, arrêtez. Et faire passer des messages au monde entier.
Vous avez participé à plusieurs conférences internationales concernant la défense des droits de l'homme. En 1988, à Paris, vous prenez part au séminaire international des ONG sur les droits de l'homme et des exclus. En 1995, vous êtes aussi à la conférence de Beijing en Chine. En 1997, vous participez à la conférence internationale sur la femme et la santé à Rio de Janeiro, au Brésil. En ce qui vous concerne, qu'avez-vous fait pour que les femmes vivant en Afrique puissent bénéficier des retombées de toutes ces conférences ?
Bon, pour que les femmes bénéficient de ces retombées, il fallait que j'ai aussi un réseau au niveau de l'Afrique, ce que je n'avais pas. J'y vais donc en Europe. Chaque fois qu'on faisait connaissance avec les femmes, parce que quand j'allais participer à ces conférences, je n'étais pas seule. Il y avait des femmes qui venaient du Congo, mais on n'arrivait pas du tout à garder les contacts. C'est ça que j'ai trouvé la faiblesse des femmes congolaises. Elles n'aiment pas garder les contacts avec les autres. Les contacts sont coupés. Vous lui écrivez une fois, il n'y a pas le feedback. Et ça fait que les retombées restent au niveau seulement de l'Europe, ce qui est dommage. Moi, à mon avis, c'est ce que j'ai constaté.
Radio Capi, grand témoin.
Kinja Moligwa, cofondatrice et présidente honoraire de l'Association des femmes d'origine africaine, AFOA, basée en Suisse. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Vous avez aussi beaucoup de publications à votre actif. En 1997, citant Identité par la cuisine des Africaines de Genève, paru dans Créativité, Femmes et Développement. Quelles étaient vos conclusions ?
J'ai pensé à tous les travaux que les femmes font, et c'est là où j'avais mis les concepts de la double maternité. La double maternité, j'ai parlé donc de la force de la femme africaine. Au moment de la guerre, tout d'un coup, elle devient la femme, en même temps, les maris, et c'est là où ça devient maintenant la double maternité. La femme va se débrouiller pour protéger ses enfants et tout ce qu'elle va faire pour essayer de protéger sa famille et nourrir la famille parce que les maris se trouvent en guerre ou donc elle doit se débrouiller. Donc elle se trouve avec la double maternité.
Il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés sur vous, comme exemple Les bons choix de Madame Kinja Muligwa dans Amina en 1995, ou encore Suissesse du lointain de Gisonne Isabelle en 99. Qu'est-ce que vous ressentez quand on publie beaucoup de choses sur vous?
Pour moi, c'est une surprise. Quand il vient chez moi, d'abord quand on vient me demander quand on met la même chose sur vous, je suis étonnée. Je dis, bon, je vois que pour moi, parce que quand j'ai saisi tout ça, c'est avec une conviction. Quand on lit avec la conviction, la détermination, on n'attend pas qu'on vienne vous féliciter. Non, on s'est dit, bon, je suis contente de faire changer les choses. Je suis contente de participer des changements des choses. C'est ça mon problème. Et là, j'ai vu ça, là, le plaisir de reconnaissance que je n'y attendais pas.
En 1998, vous obtenez le prix MODS pour l'intégration et l'insertion des femmes africaines immigrées en Suisse. Que représentait ce prix pour vous?
Ah, ça, c'est ce que je viens de dire, la reconnaissance. Ça aussi, je n'y attends pas. Parce que je participe et je cours à gauche à droite, je voyage beaucoup. J'ai beaucoup voyagé. Et je ne savais pas que les gens me voyaient, que les gens
faisaient attention
à moi. Mais moi, j'avais dans ma tête, j'ai dit non, je vais y être pour faire changer les choses. Je vais y être pour ne faire que parler pour nous, pour parler de l'Afrique. Parce que chaque fois, l'Afrique était absente. Bon, j'ai dit que je n'avais pas l'autorisation, mais je me disais non, il faut quand même que j'y sois.
Vous le disiez, vous avez beaucoup voyagé à travers le monde. Vous avez rencontré plusieurs décideurs dans ce monde en leur transmettant le message sur l'Afrique, sur la situation des femmes. Sont-ils vraiment attentifs?
Je pense à la longue, parce que, bon, le message qui vient d'une seule personne, ce n'est pas suffisant. C'est l'ensemble de tout le monde, tous ces messages, qui, à la fin, ils commencent à comprendre. Parce que chaque fois que j'y vais quelque part, par exemple, j'étais au Kiba. Le Kiba, la même chose, j'ai parlé de l'Afrique, j'étais en Israël, je raconte déjà, j'ai parlé aussi en Palestine, la même chose. Et en Turquie, la même chose. Au Brésil, la même chose. Au Cambodge, la même chose. J'ai parlé au Vietnam, la même chose. Partout, j'ai dit non, la seule chose que je raconte des amis, j'ai parlé toujours de l'Afrique et de la femme africaine.
Vous étiez pratiquement la doyenne des Congolais vivant à Genève. Quelle est la situation de la communauté congolaise en Suisse aujourd'hui?
C'est dommage qu'on ait un tout petit peu éparpillé. Comme je disais, nous aimons toujours beaucoup rester en ghetto, ça veut dire toujours entre nous. Maintenant, je pense, par rapport, il y a quelques années quand les Congolais commençaient à venir, dans les années 80, c'était catastrophique. Petit à petit, et aussi, commencent à s'intégrer, à comprendre, à suivre ce qui s'est passé en Suisse. Par exemple, on a le président du conseil communal, commune des Mérins, c'est un Congolais, c'est un compatriote, Placide Dissola. Et on a pas mal de femmes, il y a Lucienne qui est donc gabienne, qui fait partie, donc elle est députée. De plus en plus, les gens s'intègrent et puis commencent à s'impliquer dans la vie politique des Suisses.
Et en pensant à votre vie, vous vous dites que c'est l'exemple d'une intégration réussie?
Oui, à mon avis. Moi, oui, j'y pense.
À 55 ans, vous décidez de prendre une retraite anticipée. Vous revenez vous installer ici au Congo. Et pourquoi?
En fait, j'ai toujours dit, par toutes mes interviews que j'avais faites en Europe, que je retournerai toujours en Afrique. Et là, pour moi, le moment était arrivé. Il y a eu des élections, il y a eu les institutions qui sont là, qu'on les veuille ou non. Je me dis, enfin, on commence un peu à voir un peu clair, c'est le retour. Je suis rentrée pour être témoin des changements qu'il y aura dans ce pays. Je vais être témoin de ça. Parce que j'avais dans ma tête, j'ai quitté le Congo, j'avais l'amour platonique du Congo. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, on a suivi, on a lu, on a vu les reportages sur le Congo. Actuellement, ce n'est pas aussi à 100%, mais il y a quand même l'espoir, parce que quand je vois que les gens discutent, déjà, il y a les idées qui, les gens se confrontent avec les idées, s'il y a l'espoir. Et moi, je vais être témoin de ces changements dans ce pays.
Dans un des multiples articles parus sur vous, vous dites que vous n'aimez pas beaucoup le traitement que l'on réserve aux personnes de troisième âge en Europe.
Ah oui, oulala.
C'est pas pour ça que vous êtes rentrés.
Ça aussi, non, ça faisait vraiment... Bon, je me rends compte que ça commence aussi à venir ici. Hein. J'étais très stricte là-bas, mais avant toi, ici, quand je vois la façon qu'on traite aussi les vieillards, hein, je commence vraiment à désespérer. ce n'était pas à cause de ça. Mais je me suis dit, au départ, oui, je me disais, quand je voyais, on les, bon, pas au départ, ils sont dans leur maison, maison de personnes âgées. Les traitements, qu'il y a les coupures avec la famille, il y a beaucoup de choses. Mais là, c'est ce que je disais, avec cet amour platonique que j'avais avec la fille, que je vais maintenant vivre ici pour me rendre compte de ces changements. Il y a beaucoup de choses que je ne suis pas d'accord avec, parce qu'on perd, donc notre culture,
notre identité
africaine. Et là, c'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce que tu veux? Globalisation aidant, mondialisation aidant, on suit comme les autres. Et puis, on ne met pas des barrières. Il faut se protéger. On ne met pas des barrières. C'est ce qui est dommage.
Après 40 ans de vie en Suisse, vous revenez au Congo. Qu'est-ce que le Congo peut attendre de vous?
J'espère que je ferai passer le message à la nouvelle génération. S'il y a des jeunes qui aimeraient bien travailler avec moi, je suis à leur disposition pour faire passer le message. C'est très important.
Et vous avez des projets?
Non, pour le moment, je viens d'arriver. Je ne connais pas comment ça fonctionne au Congo. Je dois observer. C'est vrai. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il est touché cette pauvreté et les problèmes de la violence faite aux femmes. Et ça continue malgré qu'il y a le bruit, le tapage, c'est la problématique, mais la violence est là. Hein? La violence est là, ça c'est quelque chose qui me choque. Et c'est les femmes qui doivent mettre fin à ça. Et les femmes, ce qu'il faut qu'elles s'organisent pour mettre fin à ça, c'est nous. Ça veut dire qu'on croit qu'il y ait plus de conscience à dire non, on ne peut pas accepter d'être maltraité ainsi. Thank you.
Nous allons clôturer cette émission Kinja Muligwa, 40 ans passés en Suisse. Quel message pouvez-vous lancer à toutes les femmes qui vous suivent en ce moment?
Les femmes peuvent faire des grandes choses à condition d'être unies et agir. Et il faut que les femmes s'organisent pour ça. Il faut qu'ils s'organisent. Parce que si on continue à être à se méfier entre nous, ça ne va pas. Et les femmes, malgré qu'il y a, prenons l'exemple de parité, je suis contente que le problème de parité est rentré dans la Constitution. Mais ces parités-là, c'est aussi un piège. Parce que si la femme ne fait pas attention, on peut prendre n'importe quelle femme pour le mettre sur place en disant voilà, il y a une femme, et que cette femme ne peut rien faire pour les autres femmes. C'est ça que les femmes congolaises doivent faire attention sur ça.
Kinja Muligwa, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci, je vous remercie beaucoup.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Kinja Muligwa, cofondatrice et présidente honoraire de l'Association des femmes d'origine africaine AFOA, basée en Suisse. Aujourd'hui retraitée, à la technique Alain Goy, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent, à vous dans la province du Sud Kivu et partout dans le monde.